Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à tous. Minneapolis et les États-Unis tout entiers continuent de s'enflammer après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué dans la rue par un policier blanc. Cette nuit a une nouvelle fois été marquée par des manifestations. Un couvre-feu a été imposé dans de nombreuses villes du pays, dont Washington. Et le président américain Donald Trump menace de faire intervenir l'armée pour faire revenir le calme. Monseigneur Shelton Fabre, président de la Commission contre le racisme de la Conférence des évêques américains, revient sur ce climat actuel aux États-Unis.
This is something that we in the United States have been struggling with since the birth of our nation, racism.
C'est quelque chose auquel nous, aux États-Unis, nous faisons face depuis la naissance de notre nation, le racisme. Penser que les gens de différentes couleurs valent moins. Je ne peux donc pas dire que ces violences sont particulières à cette époque, mais c'est révélateur d'une longue histoire où nous avons toujours eu des difficultés à éradiquer le racisme. Je pense que l'épidémie et le fait d'avoir un confinement a accentué ces frustrations et la colère, car la pandémie a également révélé une réalité raciale. Les Afro-Américains aux États-Unis sont plus affectés par le virus.
Monseigneur Fabre, président de la Commission contre le racisme de la Conférence des évêques américains. Un climat de tension propice aux bisbilles politiques, le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, accuse Donald Trump d'être plus préoccupé par sa réélection en novembre que par le rassemblement d'une Amérique divisée. C'est la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. Le Yémen, pays ravagé par la guerre et sous perfusion des organisations humanitaires, qui engage une course contre la montre pour éviter une propagation de la pandémie de coronavirus. L'Arabie Saoudite et l'ONU organisent aujourd'hui une conférence de donateurs pour le Yémen. La semaine dernière, les Nations Unies alertaient sur le besoin de trouver des fonds pour aider le pays à lutter contre le coronavirus, mais également contre d'autres maladies comme le choléra ou la dengue. En Libye, les deux camps qui s'affrontent sont tombés d'accord pour reprendre finalement des pourparlers après 3 mois de rupture de dialogue. Le pays est en proie au chaos. Le maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen, et son armée autoproclamée luttent pour s'emparer de Tripoli, la capitale où siège le gouvernement officiel. Il y a 2 semaines, les 2 premiers cas de coronavirus se déclaraient parmi les réfugiés Rohingyas au Bangladesh. L'épidémie a fait désormais une première victime parmi les membres de la minorité musulmane. Plus de 750 000 Rohingyas ont fui la répression de l'armée birmane en 2017 et ils ont trouvé refuge dans des camps surpeuplés où les conditions insalubres font redouter la propagation de la Covid-19. Les précisions de notre correspondante dans la région, Sarah Bakalouglou.
C'est un Rohingya de 71 ans qui a trouvé la mort dans le plus grand camp de réfugiés au monde. Mi-mai, les 2 premiers cas de Covid-19 y ont été déclarés. Depuis, 29 Rohingyas ont été testés positifs à l'épidémie. Pour les responsables du camp, il s'agit une nouvelle fois d'une course contre la montre pour retracer avec qui la victime a été en contact. Les autorités bangladaises avaient-elles placé environ 15 000 Rohingyas en quarantaine face à la hausse du nombre de cas? Une mesure de prévention qui pourrait ne pas suffire tant le camp est grand et l'hygiène mauvaise. Les structures de santé sont aussi insuffisantes. 7 centres d'isolation existent à ce jour dans les camps qui peuvent prendre en charge environ 700 personnes. En tout cas, avec le Covid-19, la perspective d'un retour prochain des Rohingyas en Birmanie s'éloigne encore plus. Depuis 2 ans, le processus du rapatriement échoue, les réfugiés ne voulant pas rentrer tant que leur sécurité et l'accès à la citoyenneté birmane ne sont pas garantis. À Rangoon, Sarah Bakaloglou pour Radio Vatican.
En Afghanistan, 7 civils ont été tués dans l'explosion d'une mine. Une attaque qui a eu lieu hier soir dans la province afghane de Kunduz, au nord du pays. Elle n'a pas été pour l'heure revendiquée, mais les autorités y voient la main des talibans. Plus de 10 000 civils ont été tués ou blessés par le conflit afghan en 2019. Vue du ciel, la rivière est transformée en immense étendue rouge. Dans le Grand Nord russe, au moins 20 000 litres de carburant se sont déversés dans un cours d'eau. La fuite viendrait d'un accident au niveau du réservoir d'une centrale thermique selon les autorités, qui ont décrété une situation d'urgence et ont mis en place un barrage flottant. Des objets personnels du pape François vendus aux enchères. La vente débutera la semaine prochaine sur une plateforme numérique et les profits seront reversés à deux hôpitaux du nord de l'Italie. Plus d'informations à venir sur notre site internet.
Vous êtes parent ? Profitez du confinement pour apprendre à votre enfant à identifier les contenus mensongers et les rumeurs. Sur Internet, trouvez une information confirmée comme fausse et posez à votre enfant ces questions. Qui est à l'origine de cette information? À qui est-elle destinée? Provient-elle d'une source fiable? Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO.
Direction le Pérou. C'est le deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par le coronavirus en nombre de contaminations. Il enregistre désormais 170 000 cas et plus de 4 600 décès. Le système de santé est déjà fragile avant la crise et désormais saturé. L'économie du pays est paralysée. Un paradoxe si l'on observe les moyens déployés par le gouvernement de Martín Vizcarra pour contenir l'épidémie. Un confinement national a été décrété en mars et prolongé jusqu'au 30 juin. Le couvre-feu instauré chaque fin de semaine, la fermeture des frontières. Mais les prémices d'une crise alimentaire sont toutefois déjà visibles. Ce soir, on écoute le témoignage du père Hubert Boulanger. Il est en mission au Pérou depuis 26 ans.
Le virus s'est propagé beaucoup plus dans les villes de la côte et plutôt vers le nord du pays et surtout aussi dans la forêt amazonienne. Alors là, dans la forêt amazonienne, c'est l'hécatombe. Dans la région où je suis, on est un petit peu plus protégé. Mais notre grand problème, c'est qu'il y a surtout un délabrement de la situation sanitaire. Alors, le gouvernement a fait un confinement strict, et en même temps a pris quelques petites mesures sociales aidant aux familles les plus pauvres, mais vous savez, c'est une goutte d'eau dans l'océan, hein. Les gens sont absolument sans rien actuellement. Alors, de notre côté, l'Église a été extrêmement touchée de ne pas pouvoir ni même ouvrir nos églises, hein. On a mis en place tout un système de liturgie par Facebook et tout ce machin-là, quoi. Enfin, ça n'apporte pas aux personnes le réconfort dont ils ont besoin, hein, c'est évident.
Quelles autres actions propose l'Église?
Principalement, l'Église intervient avec la Caritas, hein, qui a été très surprise, bien sûr, pas forcément organisée, mais qui a répondu pas mal, mais avec peu de subsides. Mais je remarque aussi que tous les curés de paroisse, ils ont aussi fait des donations en direct, en porte-à-porte, parce que les gens n'ont pas le droit de sortir. Donc ça limite beaucoup la qualité de la donation, parce qu'on donne un petit sac de riz, un sac de sucre, des choses comme ça. Alors que si on organisait une casserole commune, comme on dit ici, hein, une espèce de réfectoire populaire, ça coûterait moins cher et il y aurait de la socialisation. Et ça, c'est pas possible dans le contexte actuel de la pandémie, hein. Alors donc l'Église se mobilise pas mal avec peu de ressources, hein, pour les secteurs les plus pauvres.
Et que pensez-vous de l'action du gouvernement qui a notamment débloqué 26 milliards de dollars pour aider la population?
On ne peut pas ne pas reconnaître que le gouvernement a fait un effort extraordinaire. Alors le Pérou est certainement de toute la région le pays qui a sorti le plus d'argent en direct pour aider les personnes les plus pauvres. Alors là, il y a plusieurs petits problèmes. Et un premier problème, c'est d'identifier justement ces pauvres, parce qu'on n'a pas une liste des pauvres du quartier, quoi. La deuxième chose, c'est aussi les municipalités pas du tout habituées à ce genre d'activité. Ils ont déjà du mal à nettoyer les rues et à ramasser les ordures. Alors, si vous voulez, quand on leur demande de faire la répartition de vivres dans une catégorie sociale qu'ils ignorent, alors là, ils sont complètement dépassés. Autre lieu de corruption. Les élus sont généralement au Pérou, ils n'ont pas été élus pour leur capacité de gestion, mais plutôt pour leur capacité de séduction. Vous comprendrez très bien que ces élus-là, une fois qu'on leur présente de l'argent, même si c'est pas pour eux, ils le mettent dans leur poche assez vite. Alors ça, c'est un problème très, 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 très important. Le gouvernement actuel, avec l'argent qui est disponible, il essaye de faire un programme social qui est intéressant.
Voilà le père Hubert Boulanger, missionnaire au Pérou. Il était interviewé par Adélaïde Patrignani. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de la formation, c'est demain matin à 8h30. Je vous souhaite une très belle soirée.